Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques et vous écoutez le magazine du Tarn de CFM Radio. C'est la semaine de l'eau, ou plutôt la semaine d'un cours d'eau dans notre rendez-vous quotidien. Nous nous intéressons à un projet sur l'Aver, cette rivière qui est un des affluents du fleuve Aveyron, qui prend sa source ici dans le Tarn pour se jeter dans le fleuve Aveyron, mais en Tarn et Garonne. Histoire d'une rivière est un projet qui est mené par la faculté Champollion d'Albi, le syndicat mixte des bassins Serre-Ouvert et la compagnie Nanaki, une compagnie rabastignol, et tous ensemble et nous propose une exploration sensible, artistique et collective aussi autour de la Verre et de notre relation à l'eau. Alors hier, nous étions en compagnie de Monsieur Laurent Vergne, le directeur du syndicat mixte Serre-Ouvert, et aujourd'hui c'est Madame Frédérique Blot qui est mon invitée. Elle est professeure et chercheuse en géographie de l'environnement à l'université d'Albi. Et avant de la retrouver, on écoute un titre extrait du dernier album de The Black Keys. Voici It's a Dream. The Dream pour le titre, et l'album c'est Peaches par le duo blues rock américain The Black Keys sur CFM Radio.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Quand la recherche scientifique rencontre le terrain et les habitants, nous allons poursuivre une autre série d'entretiens sur le projet Histoire d'une rivière qui mêle plusieurs structures, notamment le syndicat mixte Serre-Ouvert, la compagnie Nanaki, mais aussi l'université Champollion d'Albi, car comprendre une rivière, ce n'est pas seulement analyser des données hydrologiques ou mesurer des débits, c'est aussi écouter des usages, des mémoires, des attachements. Et c'est à ça qu'a donné lieu ce projet-là, Histoire d'une rivière. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Frédérique Blot, qui est maîtresse de conférence à l'Université Champollion d'Albi. Bonjour Madame.
Bonjour.
Alors tout d'abord, je voudrais qu'on parle un peu de votre axe de recherche, de prédilection, de votre travail à l'université Champollion d'Albi. Je vais y arriver. Et au sein du laboratoire Géode, qu'est-ce que signifie déjà cet acronyme-là, Géode ?
Géographie de l'environnement.
Tout simplement.
Tout simplement.
Alors, vos axes de recherche portent sur quoi ?
Alors moi, je travaille sur les rapports de pouvoir liés à la gestion des ressources et des risques dits naturels. Ça s'inscrit dans le cadre d'une géographie dite relationnelle. Donc, c'est une géographie qui considère que finalement, tout ce que l'on observe, tout ce que l'on étudie est relation. Et que ces relations, en fait, elles sont fondamentalement des relations de pouvoir. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que sur l'ensemble des terrains que je peux étudier, hein, là, par exemple, dans le cadre de l'étude de l'AVER, c'est d'abord, en fait, essayer d'identifier le système d'acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont en interaction autour de cette rivière qu'est la Vère, et de voir comment les différents types de relations qui existent, qui se traduisent dans leur pratique en fait, vont pouvoir à un moment donné soit entrer complètement en convergence, soit potentiellement entrer en concurrence. Et donc, en effet, là, on a des rapports de pouvoir qui seront plus visibles que lorsqu'on est sur des rapports de pouvoir qui sont où, en fait, on a plutôt convergence des pratiques.
Sur le projet qui nous intéresse, Histoire d'une rivière, vous y avez travaillé avec certains de vos étudiants en études de master. Comment est-ce que cette rivière est devenue un terrain d'étude ou d'intérêt pour vous ?
Déjà, en fait, à l'université d'Albi, l'université Champollion, on essaye de travailler avec les territoires. Bon, il se trouve que le directeur du syndicat Cérovert, Laurent Vergne, a il y a fort longtemps suivi la formation du master GSE-VRT, gestion sociale d'environnement, valorisation des ressources territoriales. Et donc, en fait, il est resté en contact avec cette formation. Il savait très bien que le master réalise des études avec et pour le territoire. Et donc, en fait, pour lui, ça lui a semblé presque normal, ou on va dire cohérent, de s'associer au master pour effectuer des études sur les bassins du Cérou et de l'Avère. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Et puis, c'est vrai que nous, dans le cadre de la formation, travailler avec les syndicats de bassins versants, ça nous permet, en fait, de pouvoir former les étudiants, c'est-à-dire qu'ils soient tenus informés de la dynamique des politiques de l'eau, des enjeux de la mise en œuvre des politiques de l'eau sur les territoires. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on a des intervenants professionnels comme ceux des syndicats, ça nous permet de pouvoir en fait associer le territoire à la formation, et de contribuer, nous, par des études qui sont conduites, où en fait, on forme les étudiants à et par la recherche.
Ces étudiants ont mené des enquêtes de terrain très concrètes. Il y avait notamment de la cartographie participative. Vous allez nous expliquer en quoi ça consistait, ça, en question, la cartographie participative. Qu'est-ce que c'est ?
La cartographie participative en soi, ça peut recouvrir énormément de pratiques qui sont différentes. Donc, dans notre cas, précisément, On utilise la carte, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens qualitatifs et on utilise la carte comme outil de médiation en fait avec les personnes entretenues. En même temps, ça nous permet de recueillir les représentations des habitants de leur territoire et de les situer. En même temps, ça permet aussi aux habitants de prendre conscience, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est de visualiser eux-mêmes leur représentation posée sur une carte et potentiellement de se dire bah, tiens, c'est marrant, mais cette carte, elle ressemble beaucoup à l'image que moi j'ai du territoire, elle ressemble peu à des images très institutionnelles qu'on peut retrouver sur d'autres cartes de ce territoire. Et c'est aussi donc c'est un outil de médiation. C'est un outil qui nous sert dans le cadre de nos recherches, hein, en fait, parce que ça nous permet de, aussi de pouvoir très visuellement avoir une idée, par exemple, des représentations des hydrosystèmes. Là, par exemple, sur la dernière étude qu'on a conduite sur l'Aver, quand on a fait les cartes avec des habitants, on s'est rendu compte que les habitants, finalement, ils ont des représentations qui sont très localisées autour de leur lieu de vie ou les lieux qu'ils pratiquent. Et donc, ils n'ont pas une représentation du bassin versant dans son ensemble. Voire même, par exemple, ils connaissent absolument pas où est la source, la confluence. Ils ont une idée du fait que ça va se jeter un peu en aval, mais parfois ils hésitent sur est-ce que ça se jette en Aveyron, enfin dans l'Aveyron, ça se jette donc voilà. Donc on se rend compte que, en effet, la connaissance de l'hydrosystème, elle est partielle et que c'est surtout lié en fait à leur espace vécu en fait, ce qu'ils représentent sur ces cartes. Et c'est intéressant, par exemple ça par rapport au syndicat. Parce que le syndicat, bah, il peut être amené à se dire, tiens, bah, peut-être que ça peut être intéressant en fait qu'on communique sur l'étendue du bassin, sur les différents liens qu'il y a entre l'amont, l'aval. Donc en fait, il y a des connaissances de base qui sont peut-être à diffuser en fait sur le fonctionnement de cet hydrosystème.
Et scientifiquement, pour vous, est-ce qu'il y a eu, je vais utiliser ce terme-là, des découvertes particulières, pour ne pas dire des surprises un peu au travers, que ce soit des études ou des enquêtes que vous avez menées avec vos étudiants sur le terrain?
Bah, par exemple, ce que je viens d'évoquer sur. Alors, est-ce qu'on parle de. C'est marrant parce qu'en fait, on n'est pas comme en sciences dites techniques où on va produire des brevets sur des molécules, etc. Le rapport aux hydrosystèmes, il est intimement lié à la pratique, au parcours des habitants. Là, par exemple, je pense. Une fois un cas où on a amené des habitantes de Groyais aux sources du Dadou, et les habitantes nous ont dit, je n'avais jamais mis les pieds ici. Je ne savais même pas que la rivière qui passe près de chez moi prenait sa source ici. Et donc, en fait, on se rend compte que l'eau, qui est une composante majeure des hydrosystèmes, mais pas la seule, ben en fait, quelque part, elle est très méconnue. En tout cas, les hydrosystèmes, sources de ressources, sont très méconnus, des habitants. Alors même que quand il s'agit de faire des choix d'aménagement, etc., ben on se rend compte qu'ils vont être au cœur de conflits énormes, sans pour autant que les gens ne sachent exactement de quoi il est question, en fait.
Bon, on va
Donc
combler.
ça, en fait, ça c'est une information qui est importante, hein, parce que ce que ça veut dire, c'est que peut-être que le conflit, il est lié à un manque de communication, un manque de dialogue, tout simplement.
Et parfois d'informations, et on va combler quelques lacunes pour rappeler quelques données essentielles sur l'Aver. On l'a abordé déjà avec Monsieur Laurent Vergne du syndicat mixte, mais on va le rappeler, hein, l'Aver qui prend sa source aux environs de Theiss, c'est ça?
Oui, la Vère. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en plus, pour retrouver la source de la Vère, c'est compliqué, puisqu'elle est sans doute au milieu d'une parcelle qui est cultivée ou qui est élaborée. Donc elle est difficile à identifier. La ligne de crête avec le bassin versant minier, donc des mines de charbon, elle est toute proche. Et c'est vrai que à ce niveau-là, c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que la source de l'Aver, ils n'arrivaient pas à l'identifier, et beaucoup même font démarrer l'Aver au niveau du barrage de Fourogue, en fait. Alors qu'en fait, la source est en amont du barrage de Fourogue.
Et la verf, on va dire, se jette dans le Tarn-et-Garonne, mais le département, pas le fleuve.
Elle se jette dans le Tarn-et-Garonne, elle se jette dans l'Aveyron. C'est ce qui est, parce qui c'est pour ça qu'en fait, parfois, je pense, les gens, ça peut aussi les induire en erreur.
C'est clair, c'est
C'est
pas facile.
elle se jette dans le département du Tarn-et-Garonne, enfin, elle se jette au niveau du département du Tarn-et-Garonne, et elle se jette dans l'Aveyron.
Good, in the middle of a row where Satan stood. Oh, devil's harvest is sweet to roll. With the blossom of troubles go. Forget about your sticky, icky, 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 I know. Only people got to know. The devil's harvest is sweet to roll. With the blossom of troubles go. Forget about your sticky, icky, 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 I know.
Nous sommes en compagnie de Madame Frédérique Blot, hein, qui est maître conférencière à l'Université Champollion d'Albi, chercheuse aussi sur des questions en lien avec la géographie, le développement durable. Et la géographie peut se mêler, comme là, en l'occurrence, avec ce projet à l'art, pour nous raconter notre territoire. Comment et pourquoi ce croisement avec la compagnie Nanaki, et donc de la création artistique, pourquoi ce croisement, selon vous, était intéressant de mettre en place, et aussi, j'imagine, peut-être pour faciliter le lien avec les habitants?
Le lien avec les habitants, on l'a depuis longtemps à travers les entretiens. Quand on fait des enquêtes ethnographiques, on a un lien avec les habitants qui est fort. Maintenant, le recours à l'art, il ne vient pas de cette nécessité de pouvoir échanger avec le territoire, parce que ça, on peut le faire. Mais en fait, en tout cas, il vient avec une espèce d'exigence de trouver le bon langage pour pouvoir communiquer, en fait. Parce que on peut pas venir sur les terrains avec nos articles, avec un article scientifique rédigé en anglais ou même un article en français. Je pense que c'est pas adapté, en tout cas, à la restitution du travail de terrain aux habitants. Donc il y a une première exigence qui est de restituer aux habitants les résultats des recherches sous une forme qui leur parle concrètement et qu'ils puissent s'approprier. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, dans le cadre du travail qu'on conduit avec le syndicat depuis longtemps, on avait, à travers les études qui étaient faites avec les étudiants, mis en évidence que les habitants, ils avaient des attentes quand même en termes de présence, en termes de même de création d'activités un peu alternatives pour créer du lien autour de la rivière. Dans ce cas précis, les artistes ont cette compétence de pouvoir créer des moments alternatifs autour de la rivière, parce que bien évidemment, moi je suis absolument pas compétente pour faire une performance. Voilà, on fait des performances, hein, mais en amphithéâtre.
En
voilà.
Amphi, ben oui, c'est ça, un peu voilà. Des performances.
Mais par exemple, là, vous le verrez si vous venez le 13 juin à la restitution de ce travail. Bah, par exemple, on a une plasticienne avec qui moi je travaille depuis longtemps qui s'appelle Christelle Lanier du Ménil, Mex Création. Donc j'ai travaillé avec elle au Mexique. Elle a cet effort de restitution, c'est-à-dire qu'elle interprète, s'approprie les résultats de la recherche et elle les restitue sous une forme plastique. Et donc, là, elle a réalisé une superbe carte à partir des cartographies qu'on a faites avec les habitants. Et puis, elle va participer aussi aux déambulations donc, sur le parcours commenté qu'on va faire autour de la Vère. Et bon, elle va participer à des. Il y aura des surprises. En fait, c'est ça, c'est aussi restituer le travail de recherche de manière festive, ludique, et de manière à ce que ça puisse être approprié par les habitants. Parce que c'est vrai que d'avoir introduit des artistes sur le territoire, ça nous a permis de rentrer en contact avec plein d'habitants et de profils différents, mais qui aient aussi envie de faire vivre après nous quelque chose sur ce territoire. Et on va dire que là, concrètement, comme on a des habitants qui concrètement ont vraiment joué le jeu de s'associer à ce travail-là, ben en fait, on sait que cette année, on fait cette restitution sur la Vère, mais que l'année prochaine, potentiellement, il y aura encore quelque chose qui sera diffusé autour de la Vère. Donc, on va dire que on contribue à dynamiser un dialogue des populations autour de la rivière.
Est-ce que vos étudiants étaient surpris par cette manière de travailler?
Au début, ça les surprend, mais dans le master GSE, donc moi, je me suis occupée du master GSE pendant 16 ans à partir de 2008. Et c'est vrai qu'en fait, très vite, on a fait le choix. Alors, à l'époque, on ne faisait pas appel à des artistes. Mais en tout cas, dès le début, on s'est dit qu'on va essayer de rendre compte de notre travail sous une forme artistique. C'est-à-dire que c'était les étudiants qui organisaient. Donc, on a fait une exposition de photos à la médiathèque d'Albi. Et c'était des photos avec des enregistrements sonores, il y avait des prises de son, etc. Donc, en fait, les étudiants étaient amenés à de la création artistique en lien avec les ateliers qui étaient conduits au master. Et ça, c'était une espèce d'exigence qui était associée avec cette idée qu'il fallait absolument que le savoir créé au sein de l'université sorte de l'université. Donc ça a commencé comme ça, en fait, le travail, c'est restituer ce travail-là. Bon, maintenant, le fait de travailler avec des artistes, on va au-delà. Et là, je le vois parce que nos ateliers, en général, ça dure, c'est sur 3 mois. Là, l'atelier, il a duré toute l'année. Et les gens, ils nous ont vus plusieurs fois sur le terrain. Les artistes organisent des ateliers avec les habitants. C'est très différent. Pour moi, ça accroît notre présence, mais ça accroît le lien entre le syndicat, les habitants, l'université et les artistes du coin, parce que Nanaki, c'est une compagnie locale quand même.
Bazar à
Donc,
Bastens.
ouais. Donc, en fait, oui, ce type de projet, ça crée du lien social. Et je pense que on est vraiment dans les. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans votre radio, mais il y a quand même une injonction croissante à associer les artistes, les scientifiques. Autour de projets de territoire, on se rend bien compte que quelque part, cette association, elle tend à avoir, finalement, on se voit confier une espèce de mission qui ne devrait pas forcément être la nôtre, hein, qui est de créer du lien social. Ouais, et ça s'est fait notamment, par rapport à la défiance, vis-à-vis, des sciences, des techniques. Et bon, donc il y a un discours institutionnel autour de ça. Nous, en fait, on ne l'a pas fait au départ pour ça. Vraiment pas. L'idée, c'était juste d'avoir une relation qui soit la plus égalitaire avec nos terrains. C'est comment est-ce qu'on fait pour restituer notre travail aux gens qui nous ont accordé du temps, qui nous ont donné leur savoir, qui nous les ont confiés. Enfin, c'était vraiment un souci de restitution. Et ce faisant, petit à petit, de fil en aiguille, c'est vrai que on crée du lien, on contribue à créer du lien. Voilà.
De conférences et chercheuse hein, notamment à l'université Champollion d'Albi, pour terminer, et surtout à l'endroit de celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Vère selon vous là ? Même si c'est de manière triviale, hein, c'est de dire, bah, tiens, c'est une rivière qui est comme ci, qui est comme ça, qui a tel potentiel ou qui a telle problématique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous diriez ?
Eh bien, alors la Vère, c'est une très belle étude de cas parce qu'elle incarne complètement la dynamique des relations aux écosystèmes aquatiques qu'on a pu observer depuis la fin du 19e siècle. On a une rivière, c'est-à-dire que, et d'ailleurs les habitants nous en parlent avec beaucoup de nostalgie, les plus anciens, on a une rivière qui en fait occupait quasiment toute la vallée alluviale, avec de nombreux méandres, des bras morts. En fait, on retrouve même, il y a des traces de moulins à des endroits où aujourd'hui le moulin serait en plein milieu d'un champ, parce qu'en fait, avant, on avait un bras de la rivière qui passait là. Donc, on a des traces de cette présence ancienne de l'eau dans l'ensemble de la vallée. C'était un lieu un peu magique, qui incarnait à la fois la ressource et le risque. Et c'est un lieu qui, bien évidemment, comme nombre de cours d'eau, a été, on pourrait dire, démembré plus que remembré. Donc, dans le cadre du remembrement agricole, et que ce remembrement a certes répondu à des attentes de production agricole à un moment donné de l'histoire, mais qu'aujourd'hui, en fait, la vallée en paye toutes les conséquences, en fait. Notamment parce que le flux d'eau il a été largement accéléré, le lit s'enfonce, on a des berges qui s'effondrent, on a des inondations qui sont beaucoup plus fortes parce qu'en fait, comme on a en fait drainé l'ensemble des zones humides, l'eau n'est plus retenue dans le bassin versant et elle n'est plus relarguée petit à petit, doucement. Là, en fait, on a des flux qui sont violents. Et quelque part, le barrage de Fourogue, qui, lorsqu'il a été créé, a suscité beaucoup de controverses, enfin, pour ne pas dire de conflits, parce qu'en fait, il a été déclaré illégal après, hein, après sa construction. Hein. Ce barrage, en fait, il n'avait de justification que parce qu'il n'y avait eu le remembrement, qu'en fait, on n'avait plus de possibilité de retenir l'eau sur le bassin versant, et donc il fallait artificiellement gérer les flux. Et ça, c'est symptomatique, en fait, de ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle et de ce qui est remis en question aujourd'hui. Et donc, bon, le souci, c'est que, attention, une fois qu'on est parti dans un sens, il y a toute l'inertie de l'hydrosystème, il y a aussi toute l'inertie du foncier. Maintenant, il y a des gens, ils ont des parcelles qui sont là. En fait, on peut pas revenir comme ça du jour au lendemain. En tout cas, on se rend bien compte que c'est très conflictuel. Et donc, l'étude de cas de la Vère est vraiment intéressante. Et nous, pour les étudiants, c'est vraiment une étude de cas très intéressante parce qu'elle permet de mettre en évidence tous les enjeux associés à la dynamique des cours d'eau, à la dynamique aussi des problématiques. Parce qu'aujourd'hui, en contexte de changement climatique, en fait, on va être amené à vraiment repenser en profondeur la manière dont on retient l'eau sur les versants lorsqu'on a des extrêmes hydrologiques forts pour pouvoir en fait éviter des sécheresses qui auront des conséquences qui seront encore plus importantes que jusqu'à présent. Et donc oui, en ce sens, la Vère, c'est vraiment un bassin versant qui est tout petit et qui rassemble l'ensemble des problématiques.
Après le 13 juin, qui va être l'un des temps forts hein, de ce projet Histoire d'une rivière, un temps fort qui va se terminer au château de Bruniquel. On invite les auditeurs, auditrices à se rendre hein, sur les différents sites de la compagnie Nanaki, du syndicat mixte Serre-Ouvert pour avoir tous les détails hein, de cette journée du 13 juin. Mais je voulais savoir, après le 13 juin, vous continuez à vous intéresser à la Vère avec vos étudiants ou futurs étudiants ?
Alors, de toute façon, nous, toutes les années, on a une intervention du syndicat Serre Ouvert avec qui on travaille et les étudiants viennent sur le terrain. Mais l'année prochaine, en fait, en théorie, on devrait travailler sur un autre bassin versant du Tarn. On devrait travailler du côté de la goutte du Dadou, Et donc, l'étude de cas serait sans doute conduite. Donc là, on est en train de discuter avec le syndicat de la goutte. Serait sans doute conduite là-bas.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur CFM Radio, Madame Frédérique Blot. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Champollion d'Albi et chercheuse au sein du laboratoire Géode. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.